prochaine, on va vous donner des laissez-passer familiales pour aller voir le Monster Spectacular. On est bien fiers de présenter ça à iRock 24/7. Et du même coup, ben on va vous présenter tranquillement pas vite Chris Harrell, qui est le grand Manitou. Derrière ça, c'est le 30e Monster Truck du côté de Québec. Et je pense que c'est quoi, le deuxième ou le troisième au centre Vidéotron. Si je me trompe bien, je pense que c'est trois. Mais pour vrai, Chris va avoir un show bientôt. Donc ça va être ben trippant. Monster Metal Nation, fait que c'est surveillé sur iRock. Puis on va pouvoir vous présenter Chris dans les prochaines semaines. Fait que ça va être à surveiller ça également. Passez du bon temps, passez une belle journée, les amis. Nous autres, on se reparle demain à 6h pour un autre show. Puis comme je vous dis, ben ça se poursuit avec du bon rock sur iRock 24/7 toute la journée. Salut, à demain.
Nous sommes le rock.com. CJMD 96.9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station.
Et bon matin, c'est JMD. On traverse du côté de Lévis parce que dans les trois dernières heures, vous aviez remarqué qu'il faisait un petit peu plus chaud. On était quasiment direct du Mexique. Babu et Alex sont en voyage actuellement. Puis on voit que Babu, c'est un vrai passionné parce qu'il fait ça même dans le sud. Ah oui, quand vous l'entendez parler, il était là-bas. Ben, diffusé au travers de son studio, évidemment, ici à Québec. Puis après ça, sur nos ondes, fait que ça réchauffe un peu. La neige a disparu. Dang, ça marche. Babu au Mexique pendant qu'on passe à la radio, c'est bon. Hey, mon nom, c'est Louis Seb. Bienvenue à CGMD, l'émission La Traverse. On est jeudi le 19 avril. Il est 9h01. Et j'accueille ce matin mon co-animateur du jeudi, Jean-François Morin. Comment ça va?
Ça va super bien. Bon matin. Comment ça va, toi?
Ça va très bien. La voix est un peu mieux que la semaine dernière.
J'avais... santé aussi?
La santé, ben il faut. Puis dehors, ça va mieux. Le soleil s'est pointé ce matin. Ça faisait du bien. Hein. Sérieux, j'ai vu le soleil, puis tout de suite.
Ouais, ça fait du bien, du bon temps chaud, puis l'été se tarde, le printemps se
le
tarde.
Le printemps, oui, se tarde, puis l'été, ben, évidemment, il va tarder aussi. Je parlais à ma conjointe récemment, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, que le 15 mai, j'ai une date dans ma tête, le 15 mai, quand j'avais 12-13 ans, la piscine était ouverte, puis on se baignait. C'est sûr qu'on venait de la remplir, elle était frette, mais c'était beau, la neige n'était plus là. On s'entend-tu que le 15 mai, ça va-tu être tout fondu, c'est une belle douceur blanche, là, tu vois que je m'en tiens. Je suis pas un gars que la neige dérange d'habitude, j'adore cette température-là, mais le rendu un 19 avril, un 18 avril hier, là, c'était un paysage d'hiver que j'avais, là, mes arbres avec la grosse neige, puis t'es un petit peu découragé, mais bon.
Quand j'ai eu mon école à badminton, moi, j'avais une politique à l'interne qui disait que s'il faisait plus que zéro, je pouvais me promener avec mes sandales. Puis,
fait que t'étais souvent en sandales?
Vraiment souvent en sandales. Des fois, ça est arrivé au mois de février, puis je me suis fait prendre par la suite le lendemain avec une tempête de neige.
Ben, évidemment. Mais j'avais des collègues de travail qui déjà étaient en culotte courte la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant. J'étais comme, hey, c'est pas encore tout fondu, c'est pas grave, là, c'est parti. J'étais comme...
Je tiens à saluer aussi le papa d'un enfant à garderie où ce que lui, tout l'hiver, est en culotte courte.
Ah ouais, toujours?
Quasiment tous les jours, toutes les fois que je le rencontrais, là, étant que là de course, j'étais comme tabarouette, on n'a pas la même température chez vous.
J'ai une amie qui souvent elle est nu-pied dans ses souliers. Wow. Petit clin d'œil à Caro, si elle écoute. Donc aujourd'hui, mon Jean-François, qu'est-ce qu'on va parler? On a parlé un petit peu la semaine passée, qu'on a annoncé qu'on parlerait d'inspection.
Exact, c'est un sujet fort intéressant. Mm-hmm. On a un invité de marque aussi aujourd'hui, Danny McNicol, inspecteur en bâtiment. Puis on va essayer de démystifier un peu les différents éléments de l'inspection, la réglementation auprès de l'industrie, puis c'est quoi l'inspection en bâtiment?
C'est quoi l'inspection en bâtiment? Fait que je vais te laisser nous présenter notre invité ce matin qui est avec nous en studio.
Exact. On a Danny McNicol, inspecteur en bâtiment agréé, thermographe en investigation niveau 2, expert en bâtiment reconnu par la Cour du Québec, puis technicien certifié IICRC.
Ça, ça rentre sur deux lignes, dans une signature courriel.
Exact.
Bonjour, Danny.
Bon matin avec vous deux.
Ça va bien?
Oui, merci, merci.
Merci de l'invitation d'être venu en studio.
Plaisir.
J'ai bien hâte d'entendre parler de ça, parce que comme je disais à Jean-François, moi, j'ai pas inspecté ma maison il y a 12 ans. Mais bon, c'était une course contre la montre. On était 3-4 à déposer. C'était un premier achat. J'ai hâte de voir ce que tu vas parler aujourd'hui. Sûrement que je vais avoir des petits... Ah! Des petites questions en suspens depuis que je l'ai pas
fait. On a eu l'intervention la semaine passée avec le financement. Puis justement, j'ai pas fait affaire avec un démarcheur. Pas de
dans le temps, oui, c'est
inspecter.
Ça.
Fait que c'est bien que tu aies un ami qui soit courtier immobilier.
Oui, qui va amener des facettes. C'est surtout bon pour nos auditeurs qui, eux, ont peut-être fait les mêmes erreurs que moi. Ou les mêmes... C'est pas vraiment des erreurs parce que j'ai pas eu de conséquences de ça. Fait que ça s'est bien passé. Mais si les auditeurs qui nous écoutent là, ont une question ou ils veulent nous rejoindre, il y a deux façons, en fait. On peut nous envoyer un texto au 581-500-1196 ou un courriel à studio@commercial969fm.ca. Évidemment, les lignes ne sont pas ouvertes parce que on a juste une heure, fait qu'on prendra pas une ligne ouverte là-dessus. Mais si vous voyez, si je vais regarder les courriels et les textos, si vous avez une petite question, je la poserai à notre invité. C'est toujours pertinent. Évidemment, si on est dans ce qu'on parle, posez pas une question qui est un peu en dehors du sujet parce que l'inspection, c'est large. On parle pas juste d'inspecteur. Regardez, c'est le mur, il tient. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses.
C'est très large.
C'est très large. Alors, je vous laisse aller, les boys. Là. Vous avez un beau plan de match.
Alors, Danny, j'aimerais ça que tu puisses expliquer à nous puis nos auditeurs, c'est quoi l'inspection, ça sert à quoi, ça sert à qui. Effectivement, c'est un peu le contenu de base pour mettre la table, à savoir comment on s'organise avec une inspection en bâtiment puis pourquoi qu'on va faire ça.
C'est bon. Premièrement, il faut savoir qu'il y a différents types là, d'inspections. Hein, les inspections pré-achat, les inspections pré-vente, les inspections préventives. Pour l'émission de ce matin, je pense qu'on va s'attarder un petit peu plus là, aux inspections pré-achat, qui se veut être là, l'action qu'on va faire au moment de l'achat. Donc, au moment où est-ce qu'on signe une offre d'achat, on va avoir normalement là, sur les promesses d'achat, les conditions d'inspection qui vont être indiquées. La condition d'inspection, c'est quoi? C'est que suite à la promesse d'achat, on va avoir la possibilité d'engager un spécialiste, donc un inspecteur en bâtiment, pour venir faire une vérification là, du bâtiment en question. Ça consiste en quoi, en fait? C'est qu'on va essayer de déterminer l'état de santé de l'immeuble, du bâtiment en question, pour être certain que l'achat qu'on fait, c'est une bonne transaction. C'est-à-dire que le bâtiment qu'on achète n'est pas rempli de problématiques qui pourraient, là, par la suite, nous faire sortir beaucoup de sous ou pourraient créer même là, des situations où que la santé des occupants pourrait être mise en cause.
Puis l'inspection aussi doit servir pour... déterminer quelques correctifs qu'il va y avoir suivant l'inspection aussi, là.
Oui, absolument. Et lorsqu'on va faire l'inspection du bâtiment, on va vraiment s'attarder là, à l'ensemble là, des composantes. Et suivant cette visite-là, l'acheteur aura à ce moment-là une meilleure connaissance là, du bâtiment qu'il va acheter et pourra décider à ce moment-là s'il veut faire des travaux, s'il veut demander peut-être que le vendeur fasse des travaux suite à une prise de connaissance de certains éléments que souvent le vendeur n'était même pas au courant. Ou parfois même, ça peut aller jusqu'à une baisse de prix. Donc, tout peut là, changer là, suite à l'inspection pré-achat de la part de l'acheteur et du vendeur si l'entente n'est plus encore présente. Là.
Puis, tu sais, quand on parle de diminution de prix, il faut toujours être prudent aussi avec ça parce que quand on vient faire une diminution de prix, par exemple, pour des travaux, je donne un exemple, on a une toiture où ce qu'est, on a une problématique, une déficience à faire, une correction à apporter, puis on prend un processus de négociation pour dire finalement, ben on va diminuer le prix de 5 000 $, mais ça va être important aussi de venir diminuer les garanties. Parce que tu sais, si jamais l'acheteur, lui, ne vient pas faire les travaux puis arrive une conséquence autre, ben le vendeur, lui, ne voudra pas être responsable de ces...
Non, il faut qu'il se dégage de ça.
De cette responsabilité.
Je baisse le prix parce que la toiture est due à faire une modification ou une petite réparation.
Suivant une négociation,
c'est toi qui va ensuite prendre le 5 000 que tu payes pas à moi, mais tu vas le payer pour faire l'arrivée.
Exact, mais si tu ne fais pas la réparation, par exemple...
C'est pas mon problème.
Exact, c'est un peu dans ce concept-là. Puis il faut savoir aussi, puis moi, c'est un peu dans ce concept-là, quand les acheteurs vont faire affaire avec un courtier immobilier, puis le courtier immobilier se doit, de toute façon, de recommander des inspecteurs en bâtiment qui vont répondre aux normes de notre association professionnelle, bien, à ce moment-là, c'est super important. Moi, je viens coacher mes clients aussi, où est-ce qu'on est toujours présent, souvent dans le premier 45 minutes, première heure de l'inspection, souvent les parties, les composantes les plus importantes, extérieures, toiture, revêtement extérieur, sources d'infiltration d'eau mécanique, vont être vues dans la première heure. Puis souvent, moi, je viens coacher mes athlètes, mais mes clients, pour leur...
Ton ancienne vie. Qui...
exact. Pour leur dire qu'il faut qu'ils s'attendent qu'il va y avoir des réparations, qu'il faut qu'ils s'attendent qu'il va y avoir du colmatage, des scellants à faire.
Il faut s'attendre à peut-être une surprise au pire, on ne sait pas.
Puis, tu sais, il faut pas toujours penser que l'inspection sert à négocier un prix ou diminuer le prix de la valeur de la propriété. Fait que, tu sais, c'est pour donner un état de santé. Il faut s'attendre, moi, je dis souvent que de 1 à 2 % de la valeur de la propriété en entretien, on achète un bungalow à 250 000, ben, tu sais, il faut s'attendre que suivant une inspection, qui peut avoir entre 2 500, 3 000, okay, 4 000 $ d'entretien à faire, des scellants à corriger, des thermos à changer, le réservoir d'eau chaude qui date près de 10 ans, qui va être à changer. Ben, c'est des éléments qu'il faut penser, savoir, qui va coûter un certain coût, mais qu'on ne doit pas prendre ces éléments-là pour négocier le prix à la baisse.
L'inspection, si je comprends bien, en fait, c'est l'acheteur qui la demande. C'est pas le vendeur qui le fait.
En fait, c'est ça. Quand on parle d'une inspection pré-achat, c'est vraiment l'acheteur qui décide, lorsqu'il remplit sa promesse d'achat, d'émettre une condition d'inspection. Ça, okay, veut dire que lui, suite à sa promesse d'achat, il se dit, moi, ça m'intéresse d'acheter ton bâtiment, là, mais je veux le faire inspecter. Donc, on va se donner un délai, un temps. Exemple, un séjour, un 10 jours. Dans cette période-là, l'acheteur doit engager son professionnel, faire inspecter le bâtiment en question, et suite à cette inspection-là, ben, décider s'il va y avoir renégociation, s'il accepte la condition de l'immeuble comme ça, ou si, ben, il veut se retirer, parce que des fois, malheureusement, ça peut aller jusque-là. La bonne nouvelle, c'est que dans un bâtiment, tout peut se réparer. Ouais. À partir du moment qu'on se retire d'une offre d'achat, c'est parce qu'il n'y a pas eu entente entre l'acheteur et le vendeur. Parce qu'on a une personne qui veut vendre en le vendeur, on a une personne qui veut acheter en l'acheteur. Mais si on trouve des problématiques sur le bâtiment, on est chanceux, tout peut se réparer. Il n'y a rien qui ne se répare pas dans un bâtiment. Là. Mais à partir du moment que financièrement ou dans d'autres conditions, il n'y a pas une entente entre les deux parties, ça va arriver des fois que l'acheteur va se retirer de sa promesse d'achat. Donc, ça peut aller jusque-là, une inspection.
Et je comprends bien, pour le vendeur, à ce moment-là, lui, il sait qu'il y a quelque chose à changer éventuellement s'il veut être capable de vendre. L'inspecteur, absolument, va découvrir ça, il va lui dire. Lui, après ça, ça va être à lui à engager les gens pour aller plus loin dans le diagnostic et faire la réparation pour pouvoir vendre soit au prix ou révision de prix.
Puis au-delà de ça, tu sais, le vendeur va falloir aussi qu'il déclare qu'il y a eu un rapport d'inspection, puis de divulguer les différentes anomalies qu'il y a eu aussi au rapport d'inspection. Fait que, tu sais, c'est quand même important. Puis le rapport d'inspection doit être remis aussi un rapport écrit, qui est quand même important parce que, tu sais, on va avoir un constat suivant le rapport. Puis, tu sais, une inspection qui va être bien faite, je pense qu'elle va protéger autant le vendeur que l'acheteur.
Oui, c'est pour les deux.
Exact. Puis au-delà de ça, de plus en plus, t'sais, les juges viennent responsabiliser de plus en plus les acheteurs pour dire, ben écoutez, si vous n'avez pas fait acheter votre propriété, une problématique arrive future, ben t'sais, il va falloir, malheureusement, les juges vont dire, ben écoutez, vous n'avez pas été diligent dans votre achat, vous allez devoir assumer les conséquences. De plus en plus, on voit ce type de jugement-là qui va sortir suivant des gens qui n'auront pas fait inspecter un bâtiment.
En fait, c'est ça, l'article 1726 du Code civil du Québec, c'est l'article qui encadre un peu là, l'inspection en bâtiment, parce qu'on sait que le travail d'inspection en bâtiment, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, hein, c'est un choix du consommateur de faire inspecter ou pas, mais il y a quand même l'article 1726 du Code civil du Québec qui mentionne que lors de l'achat d'un bâtiment, il faut être diligent et responsable. Et si une personne n'a pas fait inspecter le bâtiment lors de l'achat, il pourrait, lors de conséquences légales, à être réputé non diligent et non responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'essentiellement, la garantie légale qui est d'office offerte avec une transaction, ben, pourrait lui être refusée par un juge à ce moment-là.
Ah oui.
Ça peut aller jusque-là. Donc, en cours, on peut avoir un juge qui va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour vous prémunir contre ce qui vous arrive présentement et est-ce que vous avez fait inspecter le bâtiment? Et la personne de répondre non, j'ai pas fait inspecter, à ce moment-là, le juge, suite aux procédures, pourra déterminer vous avez été négligent et non responsable et on vous accordera pas la garantie légale parce que vous avez été justement là, pour peur de se répéter, mais négligent et non responsable. Donc, c'est à faire très attention. Ben oui. Il y a comme une espèce de ligne mince entre l'obligation légale de faire inspecter, qui n'est pas encore présente, et l'obligation morale de le faire. Donc, on est vraiment là sur... on est entre deux lignes présentement et on entend déjà parler là au niveau de l'actualité, un petit peu avec la ministre Thériault, que peut-être là, qu'on va aller vers une obligation là, éventuellement de faire inspecter pour protéger là, les transactions. Ce n'est pas quelque chose qui est encore sur place ici au Québec, mais Colombie-Britannique.
L'Alberta aussi.
Alberta.
Ah, ça se fait déjà.
Et l'Ontario incessamment là, ont déjà réglementé la profession et l'encadrement là, du travail d'inspection.
Puis il parlait peut-être de voir une formule un peu d'auto-réglementation, un peu comme l'OACQ, là, de qu'est-ce que j'en avais entendu parler. Je pense que c'est un peu vers là que ça qui s'en va.
Oui, parce que présentement, il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas non plus de régie ou d'encadrement là, provincial, parce que c'est d'ordre provincial là, au niveau de l'encadrement du travail d'inspection qu'il faudrait aller. Donc, présentement, ce qu'on a, c'est différentes associations qui regroupent là, bon, des inspecteurs en bâtiment. Ces associations-là, qu'est-ce qu'elles font, elles? C'est qu'elles vont normalement vérifier là, qu'il y a une formation de base là, qui est donné là, au niveau de l'inspection, au niveau de l'inspecteur, qui est une formation de base. Par la suite, ils vont faire passer des examens pour vérifier ces connaissances-là et par la suite, vont encadrer là, le travail en ce sens qu'ils vont vérifier si l'inspecteur possède des assurances, erreurs et omissions, a des formations continues, etc. Mais le gouvernement n'a pas encore légiféré tout ça, ce qui fait en sorte que le travail d'une association à l'autre est très différent et surtout, le travail sur le terrain d'un inspecteur à l'autre est très différent. Pourquoi? Parce que vous pouvez demain matin, vous deux, décider de partir, puis tous les auditeurs qui nous écoutent, une entreprise ou un travail autonome en tant qu'inspecteur en bâtiment. Donc, vous n'êtes pas protégé, les auditeurs qui nous écoutent, là, d'engager un inspecteur en bâtiment puis d'être certain qu'il y a réellement là, une formation puis un encadrement avec des assurances. Ça veut dire que votre voisin, lui, a perdu sa job comme comptable, il décide de devenir inspecteur en bâtiment, grand bien lui fasse, il va s'acheter un ruban à mesurer, un appareil photo, puis il va aller partir des cartes d'affaires et voilà, il est inspecteur en bâtiment. Donc, c'est pour ça qu'on veut dans la profession actuellement que rapidement, on puisse là, avoir un encadrement plus renforcé au niveau et de la profession et au niveau de la formation.
Donc, c'est un peu pour ça que en début d'émission, quand Jean-François t'a présenté, il a donné toutes tes certifications. Il faut que tu ailles prouver que tu es certifié versus que juste le titre, comme certaines autres professions, est protégé d'avance. Ce n'est pas encore le cas pour l'inspection.
En fait, un inspecteur pourrait ne pas avoir de formation aucune et effectivement porter le titre d'inspecteur en bâtiment. Donc, c'est pas un titre qui est protégé.
Mmh.
Ouais.
Fait que si vous entendez inspecteur Louis Seb, c'est pas une bonne idée.
Puis, tu sais, il faut savoir aussi là, que l'inspecteur que nous, on va recommander, ben, doit détenir là, une assurance responsabilité, doit faire partie d'une association professionnelle aussi, doit remettre une convention écrite au client aussi, puis doit remettre aussi un rapport écrit à la fin de l'inspection. Ça ne veut pas dire nécessairement 5-10 minutes après l'inspection, mais dans les journées qui suivent ou les heures qui suivent, de remettre un rapport écrit parce que c'est ça qui va donner le bilan de santé de la propriété.
Est-ce qu'un rapport écrit, parfois ou souvent, c'est « tout est beau »
j'en aurais long à dire. Je pense qu'on pourrait faire une émission complète là-dessus. Okay. Oui, effectivement.
Écoute, je comprends que non, mais...
C'est parce qu'il y a des inspecteurs qui vont faire... facilement, là, j'ai déjà entendu là, un 4 à 5 inspections par jour. Donc, on parle d'inspections qui vont se faire dans une période qui dépasse rarement l'heure. J'ai vu des inspections être réalisées en 45 minutes, alors qu'une bonne inspection sur un bâtiment là, standard, unifamilial, devrait durer 2h30 à 3h facilement.
Oh, OK, quand même.
J'ai vu des inspecteurs...
Deux inspections par jour, c'est ton max.
Ben, fait qu'on comprend qu'à 5 inspections par jour, là, on peut pas arriver avec... un réel état de santé du bâtiment. Le diagnostic est faussé et on induit le client en faux parce que l'information qu'on lui donne est totalement incomplète. Donc, c'est pour ça que le rapport d'inspection, pour répondre à ta question à ce moment-là, ben oui, tout va être beau parce qu'il n'y a à peu près rien qui a été vu.
Ouais, donc, fait qu'il faut se méfier de ça si on fait faire un rapport d'inspection.
Oui,
ça dure moins d'une heure puis qu'on a deux lignes sur notre rapport.
Exactement. Et les formes de rapport sont différentes aussi d'un inspecteur à l'autre. Non, ce qui fait en sorte qu'il y a des inspecteurs qui vont utiliser des tabloïdes, donc des cochers oui, cochers non, vrai ou faux, là, que j'appelle, avec des phrases préconçues qu'on fait un copier-coller, donc et des pictogrammes. À la fin, on essaye comme client qui connaît rien là-dedans, comme néophyte, d'essayer de comprendre le résumé de l'inspection, puis c'est pas vraiment réalisable. Moi, comme inspecteur, souvent, je fais la contre-expertise sur des dossiers et j'ai à analyser ces dossiers-là, puis moi-même, je m'y perds. Donc, j'ai une feuille à côté de moi, là, puis là, je prends des notes, puis j'essaie de décortiquer. Donc, si un professionnel est pas en mesure de sortir l'information facilement. Imaginez une personne qui n'a pas de connaissances dans le bâtiment, comment elle peut être un petit peu là, mélangée à travers tout ça. Donc, quand on magasine un inspecteur en bâtiment, gênez-vous pas là, de demander un exemple de rapport. Ça peut vous être envoyé facilement en quelques secondes par Internet. Vous voyez le type de rapport que l'inspecteur va réaliser, puis de quelle façon, par la suite, vous allez être vous-même en mesure de comprendre l'information qu'il va vous avoir donnée par écrit. Évidemment, sur place, lors de l'inspection, il y a une verbalisation là, des éléments qui sont, qui sont vus. Donc, on note au fur et à mesure les problématiques, on vous l'expose. Mais par la suite, le rapport, lui, c'est important de bien le comprendre aussi.
Puis ça aussi, c'est super important d'avoir un inspecteur qui vulgarise bien aussi qu'est-ce qu'il voit puis qu'est-ce qu'il dit.
Faut pas hypnotiser le client avec des complications. Faut que le client comprenne.
Parce qu'on a toutes sortes d'inspecteurs aussi. Puis, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la composante est grave? Est-ce qu'un correctif peut se faire par rapport à la situation? Puis, quelqu'un qui va bien vulgariser la problématique, ben, va faire en sorte que l'acheteur va savoir exactement vers où il va aller dans tout ça. Puis, tu sais, c'est une inspection qui, majoritairement, coûte pas tellement cher non plus. Là, on peut parler entre 500 et 700 $ tout dépendamment des types d'inspections.
OK.
Mais, tu sais, c'est des inspections qui valent la peine d'être faites, puis qui va vous donner un constat sur l'ensemble de l'état de santé de la propriété.
On parle de type d'inspection, on a parlé principalement du préachat actuellement. On va aller prendre une petite pause, puis après on pourra parler de d'autres types, parce que j'ai une petite question en suspens. Le préachat, je ne l'ai pas fait, mais je suis foutu, moi, là. Je peux-tu le refaire? On va aller prendre une petite pause, puis on en parle après.
16-9, intellectuellement libre. C'est au Shaker Cuisine et Mixologie que l'on retrouve les meilleurs tartares et tataki au monde. 12 choix de tartares tout aussi délicieux et savoureux vous sont offerts en entrée, repas ou dans un fameux pot bon. Le bœuf italien avec prosciutto, le saumon au yogourt grec ou encore l'incroyable thon rouge, gingembre et litchi. Ils vont tous vous laisser avec une impression de « Ah, j'ai jamais mangé de quoi de bon demain ». Dans vos shakers Sainte-Foy, Lévis, Cap-Rouge et Charlebourg.
Salut, c'est Tigui. Je veux vous parler de la ressourcerie de Lévis parce que c'est vraiment mon magasin. Ça me tente pas de payer des chemises 100$, moi, dans vie. Pas plus que des jeans. En fait, j'aime ça acheter usagé. Ça me fait sentir intelligent. Puis j'économise pas à peu près pour le linge, la peinture, les meubles, la déco, l'équipement sportif, des outils de cuisine, même de la bouffe. Et j'en passe en masse. Il faut voir d'abord ce qu'a à offrir la ressourcerie. 24 rue Charles-Lecadieux. C'est pas juste Tigui qui le dit, c'est la logique même.
La foire commerciale du concours Face au Dragon, le concours en entrepreneuriat de la relève lévisienne, s'amène bientôt. Soyez présents samedi, le 21 avril, de 9h à 16h, et dimanche, le 22 avril, de 10h à 16h, à la Grande Place des Galeries Chagnon. Venez découvrir ce qu'est le concours Face au Dragon de Lévis et rencontrer des gens qui ont le feu sacré de l'entrepreneuriat. Vous pourrez également acheter un produit ou un service local et encourager notre économie. En plus d'échanger avec des jeunes entrepreneurs motivés, enflammés et prêts à vous surprendre.
C'est un rendez-vous.
Les 21 et 22 avril prochain au Galerie Chagnon de Lévis pour visiter la foire du concours Face au Dragon. Plus d'informations www.faceaudragon.com 418-833-7122.
Une présentation de Trajectoire Emploi.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues pour réserver vos place www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
Pensez à Ninette, ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, à Ninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. À Ninette.ca. 581-984 36-80.
Taxi 4000, le service de taxi de qualité supérieure à Lévis vous présente son application.
C'est vrai qu'il en donne toujours un petit peu plus.
Absolument. Et leur nouvelle application en comprend pas mal de petits plus.
Ah ouais?
Ben oui, vous pouvez voir quel chauffeur s'en vient, le type de voiture qu'il conduit, où est-il rendu,
et
ça va se tenir sur votre téléphone lorsqu'il sera rendu sur place. Vous pouvez payer avec ça en plus. Imaginez-vous donc que vous avez un 15% de rabais lorsque vous utilisez l'application. Pour la télécharger, consultez l'App Store ou le Google Play Store.
Recherchez Taxi Coop et sélectionnez Taxi 4000.
Taxi 4000, votre service de taxi de qualité supérieure à Lévis.
CJMD 96.9 Lévis.
Nous sommes de retour dans La Traverse, toujours en compagnie de Jean-François et de Danny. Et juste avant la pause, je parlais inspection, on a parlé inspection pré-achat. Moi, je l'avais pas faite, mais là, à cette heure que j'ai acheté, je peux-tu faire une inspection de ma maison pour pas qu'un juge me dise que j'ai pas fait mon travail?
Ben, on a parlé là, d'emblée de trois types d'inspection. L'inspection pré-achat, qu'on a discuté là, brièvement tantôt. L'inspection pré-vente. Et l'inspection de maintenance. Une personne qui a déjà son bâtiment, il est acquis, puis là, il se dit, tabarouette, je suis pas certain des conditions de mon immeuble. J'aimerais ça là, les connaître, puis peut-être le prévoir un peu là, les réparations à venir. Donc, on peut faire une inspection de maintenance sur un bâtiment existant.
Ah, okay.
Mais le plus important, c'est que une inspection pré-vente pour une personne qui souhaite vendre son bâtiment pourrait le protéger. De quelle façon? C'est que l'inspecteur va sur place, va faire le tour du bâtiment, un peu comme une inspection pré-achat, et va à ce moment-là ressortir toutes les petites déficiences, les petites anomalies ou les grosses anomalies qui pourraient là, gréver le bâtiment. Puis de cette façon-là, ben, le vendeur va pouvoir faire deux choses. Soit décider d'améliorer la qualité du bâtiment en faisant des réparations, des rénovations, ou encore en déclarant dans sa déclaration du vendeur les informations que l'inspecteur va lui avoir déclaré d'avoir sorti.
Je ne l'ai fait pas, mais je le dis.
Ouais, c'est de cette façon-là, la personne qui va venir pour acheter le bâtiment va avoir un document pour voir l'état de santé du bâtiment. Ça peut être rassurant pour décider d'apposer une signature dans le bas de la promesse d'achat. Mais aussi, ça va permettre d'éviter des renégociations suite à l'inspection pré-achat que cet acheteur-là pourra faire effectuer. Okay. Moi, la façon que je l'explique à mes clients quand ils m'appellent, là, l'inspection pré-vente, c'est une assurance. Moi, je vous assure là, qu'en investissant, mettons, un 500 ou un 600 $ là, avec une inspection pré-vente, je vais vous empêcher d'avoir une renégociation suite à votre future promesse d'achat. Pourquoi? Parce que les éléments déficients sont déjà connus, donc il n'y aura pas personne qui va revenir pour dire, regarde, la toiture elle a telle problématique, j'ai une infiltration d'eau, là, telle affaire est désuète. Donc, le 4, 5, 6 000 $ là, de petites améliorations qui devraient être faites, ben, on le connaît déjà, on l'a déclaré. Ça veut dire que le 600 $ que vous avez acheté comme assurance, vous venez vous protéger essentiellement là, de ces réclamations-là suite à la renégociation. Donc, ça devient intéressant.
Il n'y a pas d'assurances qui sont si peu chères, si on
veut. en tout cas, pas aussi certaines de donner un rendement comme ça.
C'est ça, parce que des assurances vie ou assurances hypothèque ou assurances auto, ça coûte plus cher, puis c'est normal parce que ça dure plus longtemps. C'est un petit montant investi pour une grande garantie.
Exactement. Le rendement, il est certain. Puis, l'autre point, c'est que tout ce qu'on va avoir ressorti dans l'inspection pré-vente vient vous protéger légalement parce que personne ne peut vous poursuivre sur quelque chose qui a été déclaré. Donc, tout ce que l'expert va déterminer, va trouver, bien, c'est des choses que vous allez déclarer et pour lesquelles vous ne pourrez pas être poursuivi. Vous êtes aussi, à ce moment-là, détenteur d'une autre assurance qui est celle d'être protégé par notre assurance, nous, les inspecteurs, les assurances erreurs et omissions. Donc, si lors de l'inspection pré-vente, on a fait une omission ou une erreur qui vous porte préjudice lors d'une future réclamation de l'acquéreur de votre maison, ben vous seriez à ce moment-là protégé si on est reconnu coupable là, d'une erreur ou d'une
omission. Double assurance, en fait.
Exactement. Donc, que des avantages à fonctionner avec une inspection pré-vente.
Puis, en continuant avec l'inspection, moi, j'aimerais ça, Danny, que tu puisses me mentionner les différences là, sur les déficiences plutôt les plus fréquentes qu'on va avoir là, souvent que tu vas voir pendant les inspections?
Oui. On entend souvent parler des fissures de fondation. Hein, ça, tout le monde parle des fissures, puis c'est donc grave une fissure, alors qu'en réalité, là, les fissures de fondation, c'est la chose la plus facile à réparer sur un bâtiment. Oui. La plus facile. Quand on voit une fissure de fondation, dites-vous une chose, on peut la réparer, aussi grande soit-elle. Les fissures, la majorité des bâtiments, il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a des fissures qu'on appelle de retrait. C'est lorsqu'il y a eu la coulée du béton, il y a une cure, et suite à ça, bon, l'eau s'évapore du béton. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle fissure de retrait, c'est le retrait de l'eau, l'évaporation. Et les zones les plus faibles un peu, il va y avoir fissuration à ce moment-là. Donc, c'est les petites fissures qu'on voit un peu partout. 95% des maisons en ont, là, des fissures de retrait. Donc, c'est pas quelque chose de grave. À partir du moment que ces fissures-là n'ont pas dépassé un 2 mm, normalement, le bitume, le goudronnage, qu'on appelle en bon français le pitch, dans le sol, la partie noire, bien, elle va résister avec son élasticité. Fait que souvent, il n'y aura pas d'infiltration d'eau. Puis encore là, souvent, on dit fissure égale infiltration d'eau. Pas nécessairement. Parce qu'il faut qu'on aille une pression hydrostatique, donc une quantité d'eau dans le sol pour que cette eau-là crée une pression pour rentrer. Ouais. Donc, si mon pitch a résisté, puis si mes pentes de terrain sont belles, donc éloigne l'eau proche du bâtiment, que mes descentes de pluie, les gouttières sont éloignées aussi, les probabilités que j'aie une infiltration d'eau sont relativement petites. Et les fissures, il faut savoir les lire aussi. Il y a des fissures de retrait, mais il y a des fissures liées à des tassements, des fissures de pression, de compression, etc.
Ah oui, donc, il faut savoir les identifier. C'est pas juste une fissure. Là.
Non.
On voit une fissure, ça a forcé, ça a cassé, c'est en train de péter. Non.
Non. Et par contre, la seule chose que je dirais, là, en bémol, c'est que la fissure sur laquelle tous et chacun devraient là, avoir une attention particulière, c'est les fissures horizontales. Donc, une fissure horizontale, là, on a un problème là, beaucoup plus important qui nécessite souvent là, le recours à un expert. Quand je dis expert, là, on va parler souvent plus d'un ingénieur en structure. Là.
Okay.
Mais fissure horizontale, on n'y est pas avec ça, là, comme on dit.
Ça peut
être beaucoup plus problématique. Mais, encore une fois, dans le bâtiment, la bonne nouvelle, tout se répare.
Puis après ça, y a-tu des déficiences qu'on voit généralement sur le toit, la ventilation, l'isolation? Oui. C'est des choses qu'on voit souvent, nous, là. Il manque d'isolation. Le soffit est obstrué par l'isolation. Puis, c'est souvent les solins près des cheminées, ben c'est des sources d'infiltration, des fois, quand c'est pas bien colmaté. Fait que, qu'est-ce que vous voyez par rapport à tout ça?
Oui, effectivement, les problématiques sur le bâtiment. En fait, les pires ennemis du bâtiment, c'est l'eau puis l'humidité, comme Jean-François, tu le mentionnes. Là. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est d'où est-ce que l'eau arrive. Et principalement, bien évidemment, la toiture protège là, le bâtiment contre ces infiltrations-là. Souvent, on a des compagnies de toiture qui vont faire les réfections de toit, mais qui ne vont pas penser à la ventilation. Et quand on fait des revêtements de toit en bardeaux d'asphalte, c'est des revêtements qui ont la nécessité d'avoir une bonne ventilation. Et cette ventilation-là se passe où? Bien, se passe dans l'entretoit, dans le comble, communément que les gens appellent grenier. Et souvent, bien, les compagnies de toiture, les meilleures le font très bien, là, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ils ne vont pas regarder la ventilation si elle est adéquate. Fait qu'on voit une quantité de problématiques liées à une mauvaise ventilation. Puis essentiellement, c'est qu'est-ce que ça amène comme problématique? C'est l'usure prématurée du bardeau. Donc, on a connu il y a quelques années là, le fameux bardeau BP, un bardeau organique là, qui fraisait tout seul juste à le regarder. Puis lui était problématique. Puis il y a eu des recours, c'est correct. Mais pour les autres, ben la problématique souvent, c'est la mauvaise ventilation. Donc, on fait affaire avec une compagnie, on pense être bien protégé. Malheureusement, des fois, ils n'ont pas regardé la ventilation. Et ça va créer des gros problèmes. D'autres fois aussi, c'est l'isolation qui n'est pas adéquate. Donc, il va créer trop de pertes de chaleur. Et ces pertes de chaleur-là vont aussi influencer là, de façon négative l'usure du bardeau. Et encore une fois, ben, on est un petit peu lésé. Et là, on va se dire, ouais, mais le bardeau est garanti. Malheureusement, non. Les garanties du manufacturier vont tomber à partir du moment où les conditions d'installation ne sont pas respectées.
Donc, quand on fait une toiture, il faut aussi regarder ce qu'il y a en dessous de la toiture.
Exactement.
La ventilation, justement, l'entretoit.
En fait, le bâtiment, c'est une science. On appelle ça la science du bâtiment. Okay? Quand je dis ça, les gens...
Oui, je suis comme vous.
Ouais. Et l'interrelation entre chacune des parties du bâtiment doit être regardée.
Mm-hmm.
Donc, la problématique liée à un pare-vapeur peut apporter une problématique dans l'entretoit, peut apporter une usure prématurée au niveau des bardeaux. L'ensemble du bâtiment, c'est une science, puis l'interrelation chimique et physique entre ces composantes doit être identifiée. Et la personne qui est formée pour faire ça, c'est l'inspecteur en bâtiment.
OK. Fait que tu vas dans un entretoit quand tu inspectes.
Absolument. Okay. L'inspecteur se doit d'entrer
pas ça de
même, dans l'entretoit.
Moi, je pensais qu'il faisait le tour, puis tu sais, vraiment, ben, regarde là.
Ben, il y aurait qu'un syndrome du périscope.
Ouais.
Le périscope, comme un sous-marin. L'inspecteur se rentre la tête au bout de l'échelle, fait presque un 360, des fois non, parce qu'il a mal dans le dos, et il dit que l'entretoit est adéquat. Mais non, il faut entrer dans l'entretoit quand c'est possible de le faire. Ça prend les dégagements suffisants.
Ouais,
et on va aller voir les problématiques, parce qu'ils ne sont pas toujours sur le bord de la trappe d'accès.
Ben non, il faut aller voir. Là, si on voit au loin, ça n'a pas l'air bien. Faut aller voir. Faut pas juste faire « Oh, c'est beau!
» Exactement, ah ben. Exactement. Donc, c'est important de vérifier comme il faut toutes ces étapes-là.
Puis, par la suite, au niveau de déficience qu'on voit, ben, tu sais, souvent, on va parler d'électricité, on va parler de plomberie, on va parler là, d'infiltration d'eau. Y a-t-il des éléments là-dedans que toi, que tu vas recommander aux gens là, de faire comme observation ou vérification à toutes les fois qu'il va y avoir une inspection?
Bien, les déficiences fréquentes, là, pour ta question primaire, là, Jean-François, c'est au niveau des problèmes électriques, là, ça, on le rencontre dans presque toutes les inspections. Le contracteur, à l'origine, a bâti la maison et souvent, le sous-sol n'est pas terminé, n'est pas complété à la livraison du bâtiment. Mm-hmm. À ce moment-là, l'acheteur, lui, il va entreprendre souvent par lui-même de faire ses travaux avec le beau-frère ou le voisin. C'est-tu des expériences personnelles?
Oui, oui, carrément. L'ancien propriétaire, c'est, je peux le garantir.
Ouais.
On a refait faire des affaires.
Et c'est quand on parle d'électricité, parfois, on peut tomber dans des risques d'incendie. Hein? Mm-hmm. On l'entend des fois à la radio, à la télévision.
Un fil de chauffage utilisé pour...
Incendie d'origine électrique. Et ça provient effectivement là, d'installations qui sont déficientes. Moi, j'appelle ça artisanal et amateur. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est très, très, très important lors de l'inspection de vérifier adéquatement là, l'intérieur du panneau électrique. On ne peut pas faire de modification à un inspecteur dans un panneau. On peut juste l'ouvrir et regarder. C'est la seule chose qui nous est permis
regardez,
de faire.
Regarder, ça a l'air droit.
C'est ça, on ne peut pas toucher à rien d'autre.
Mm-hmm.
Mais au moins de vérifier s'il n'y a pas là, des doubles taraudage, donc plusieurs circuits sur un... plusieurs fils sur un même circuit, de voir s'il n'y a pas des fils qui sont grillés, s'il n'y a pas des connexions qui sont endommagées, de voir s'il n'y a pas de la corrosion à l'intérieur du panneau, etc. Le panneau électrique aussi, c'est des fois son emplacement. Des fois, on va voir des panneaux électriques situés tout près d'une douche, d'un bain ou dans une salle de bain, ce qui est non conforme.
Collé sur une fenêtre.
J'ai déjà vu à plusieurs reprises des tuyaux d'eau qui passent par-dessus la boîte électrique. Puis, les fils d'aluminium, est-ce que c'est problématique?
Bon, le filage d'aluminium, on entend souvent parler là, par les amis que c'est une grosse problématique puis il faut tout ouvrir les murs pour remplacer ça. La réalité, c'est pas tout à fait ça.
Pardon?
Les compagnies d'assurance sont quand même un petit peu là, vigilantes à ce niveau-là, au niveau du filage d'aluminium. Et c'est un filage là, qui était présent dans les bâtiments, là, je vous dirais, là, si on regarde les années 72 à 78 ou à peu près. Là. Tu sais, on joue là, mm-hmm. avec une marge un peu plus grande. Essentiellement, le filage d'aluminium, c'est pas le filage lui-même qui est problématique, mais bien les connecteurs qui sont pas compatibles. Quand on parle de connecteurs, on parle des prises, des interrupteurs, des luminaires. Donc, ça, souvent, c'est pas compatible avec l'aluminium. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on fait venir un électricien quand on se retrouve devant un bâtiment qui est avec du filage d'aluminium pour avoir un document de conformité. L'électricien, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier l'ensemble des circuits pour vérifier que les connecteurs soient compatibles. S'ils ne le sont pas, il va faire des jonctions avec des marettes spéciales, des composants de oxydation, puis avec un filage en cuivre pour aller rejoindre le connecteur. Okay. De cette façon-là, le maître électricien va être capable de garantir que le filage, l'installation, il est conforme, elle est conforme.
Okay.
Donc, on ne veut pas refaire une maison parce qu'elle a du filage d'aluminium, mais on se doit de s'assurer que ce soit fait adéquatement. C'est quelque chose qui se répare là, vraiment facilement. Oui,
on
n'a
pas besoin d'ouvrir un mur.
Non, puis les coûts, c'est pas si élevé.
Ouais.
Mais souvent, les gens ne le savent pas. Et je rencontre régulièrement là, des maisons qui ont du filage d'aluminium et qui vont être. Ils vont avoir des prises ou des interrupteurs remplacés par des modèles de type décora qu'on appelle. Pour les auditeurs qui se demandent c'est quoi, c'est les prises interrupteurs qui sont carrées.
Mm-hmm.
À ce moment-là, eux autres sont incompatibles avec l'aluminium. Mais souvent, les gens ne savent pas, puis ils ont déjà fait des remplacements. Fait que, tu sais, quand on arrive sur des inspections, on voit du filage d'aluminium, on voit des prises comme ça, des interrupteurs, bien, il faut être conscient, puis en informer notre acheteur. Et encore une fois, comme j'ai mentionné, tout se répare. Donc, un bon électricien, on répare tout ça, et tout le monde est heureux.
L'affaire de ketchup.
Puis la boîte électrique, elle, infusible, est-ce que c'est encore conforme? Est-ce que c'est encore toléré? Est-ce que c'était des bons systèmes?
Ben, en fait, les boîtiers infusibles, c'est un bon système en soi. La problématique qu'il y a avec les boîtiers infusibles, c'est que les gens qui l'opèrent vont modifier l'ampérage des circuits. En exemple, un circuit là, électrique, mettons, pour des prises de courant, on va avoir un circuit de 15 ampères, mais là, le circuit a sauté et la personne, ben, elle trouve sa plate. Ça fait deux fois qu'elle remplace dans la même semaine le fusil, fait qu'elle va mettre un 30 ampères. Le 30 ampères, lui, il est fait pour, exemple, une sécheuse. Donc, on s'entend que la résistance du circuit est maintenant beaucoup trop importante. Mmh. Et c'est ça qui peut créer des incendies, parce que l'appareil électrique qui est fait pour être protégé par un circuit de 15 ampères ne sera pas protégé. À ce moment-là, les compagnies d'assurance sont frileuses parce qu'il y a possibilité pour les propriétaires de modifier l'ampérage. Fait qu'actuellement, la presque totalité des compagnies d'assurance vont exiger, lors de l'achat d'une propriété avec panneau à fusible, qu'il soit remplacé par un panneau à disjoncteur. C'est presque la totalité des compagnies d'assurance maintenant qui l'exigent.
Ils vont l'exiger des fois à différents moments. Des fois, ça va être avant l'acquisition, dans la première année de l'acquisition ou dès l'entrée dans la maison, selon les différentes compagnies d'assurance. Moi, qu'est-ce que j'aime faire aussi dans le courtage immobilier? J'aime demander à mes clients, dès le processus de négociation, de faire une vérification auprès de leur compagnie d'assurance. Puis le pourquoi de ça, c'est à cause que moi, je veux que mes clients fassent une vérification diligente, complémentaire, parce que, tu sais, des fois, les compagnies d'assurance vont poser des questions un peu plus techniques. Est-ce que la boîte électrique date de quelle année? Quels types sont les composantes? Puis c'est pas nécessairement déclaré dans la déclaration du vendeur.
C'est l'information à aller chercher.
Complémentaire.
Complémenter, OK.
Puis, tu sais, à ce moment-là, mes clients, quand ils arrivent chez le notaire, ben leur compagnie d'assurance assure déjà le bâtiment ou sont prêts à assurer le bâtiment. On n'a pas d'information de dernière minute qui vient s'ajuster à ça. Puis, on est capable de savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. La problématique trop fréquente qu'on voit, c'est que les clients vont se faire rappeler par le notaire « Est-ce que vous avez votre compagnie d'assurance pour l'acte de vente dans deux semaines? » Puis là, ils disent « Oh non, j'ai oublié. » Puis là, ils magasinent leur assurance. Puis là, ben, tu sais, ils se rendent compte que les cheminées sont pas conformes. Ils se rendent compte que, justement, la boîte électrique est pas conforme, etc. Puis là, ils vont exiger d'avoir des remplacements ou des modifications. Fait que c'est important de le prévoir dès...
À l'avance.
Dès le processus de négociation, dès le dépôt d'une promesse d'achat. Fait que c'est pour ça que nous, on essaie d'encadrer au maximum nos clients comme ça.
On va aller prendre une petite dernière pause. Et après la pause, juste pour mettre en haleine nos auditeurs, on va aborder quel sujet?
On va revenir sur les nouvelles technologies de l'inspection.
Oh, nouvelles technologies, on aime ça, un gars techno comme moi. Restez là, chers auditeurs, une petite pause et on revient.
CJMD 96.9.
Branché sur Lévis.
Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le génie bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles Acadieux, entre la route du président Kennedy et les galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15$ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens. 24 rue Charles-Acadieux.
La foire commerciale du concours Face au Dragon, le concours en entrepreneuriat de la relève lévisienne, s'amène bientôt. Soyez présents samedi, le 21 avril, de 9h à 16h et dimanche, le 22 avril, de 10h à 16h, à la Grande Place des Galeries Chagnon. Venez découvrir ce qu'est le concours Face au Dragon de Lévis et rencontrer des gens qui ont feu sacré de l'entrepreneuriat. Vous pourrez également acheter un produit ou un service local et encourager notre économie. En plus d'échanger avec des jeunes entrepreneurs motivés, enflammés et prêts à vous surprendre.
C'est un rendez-vous!
Les 21 et 22 avril prochains aux Galeries Chagnon de Lévis pour visiter la foire du concours Face au Dragon. Plus d'informations au www.faceaudragon.com 418-833-7122.
Une présentation de Trajectoire Emploi.
Red Beard Survival, l'école de survie au Québec, a une nouvelle activité. L'initiation à la survie en forêt. Venez passer une demi-journée dans le décor féerique de la montagne du domaine du radar, tout en apprenant les trucs de survie de nos instructeurs chevronnés. Un petit feu en forêt, des ateliers pratiques, des défis, et bien plus dans une ambiance familiale et décontractée. Le tout pour seulement 50$ tout inclus.
Oui, 50$ tout inclus.
Amenez la famille, les amis et les collègues. Pour réserver vos places, www.redbeardsurvival.ca.
Redbeardsurvival.ca.
Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, aninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's it. aninette.ca. 581-984-3680.
Tu veux acheter une auto usagée?
Tu as de la misère à faire confiance à un vendeur de chars?
Viens chez Triple J.
Stop! Pourquoi je te ferais plus confiance qu'à un autre?
Triple G Auto, c'est une entreprise familiale avec 20 ans d'histoire. Membre Ramvoc depuis 15 ans, le service après-vente est notre priorité.
OK, mais c'est qui la famille Triple J?
C'est simple. Mon père Jocelyn, mon frère Jesse et moi-même Jonathan.
On est là pour trouver le véhicule qui répond à vos besoins
selon le mode de paiement ou de financement qui correspond à votre portefeuille.
Pour plus d'infos,
www.triplejauto.com 565 route du président Kennedy
88-838-5111.
Animé par Régent Gauthier.
Les entrepreneurs sont toujours la bienvenue à CJMD 96.9. Des plus et des moins, hein? Des bons coups, les mauvais coups. Des entrepreneurs de la région de Lévis, la Rive-Sud, Québec même. On est de retour dans la jungle des affaires sur les ondes de CJMD 96.9. On vous reçoit le vendredi de 10h à midi.
Ben oui, avec Régent Gauthier.
CJMD 96.9, le vendredi de 10h à midi.
Les entrepreneurs sont toujours la bienvenue.
Parce qu'en affaires, comme dans la vie, il y a les hauts puis il y a les bas. C'est ça la jungle. La jungle des affaires. Vendredi de 10h à midi.
CJMD, le 96.9 à Lévis.
Et c'est presque déjà la fin, 9h45, en ce jeudi 19 avril. Louis Seb à la traverse, toujours en compagnie de Jean-François Morin et de Danny McNichol. Et on l'a pas dit au retour de pause tantôt, mais qui est Danny McNichol? Inspecteur en bâtiment, mais pour qui, pourquoi, pour comment?
Inspection DMI.
DMI, OK.
DMI, dans le fond, vous pouvez le rejoindre aussi par téléphone ou par courriel. On va laisser Danny donner ses informations.
Ben oui, c'est
alors,
le bon moment.
Facilement au téléphone, toujours rejoignable, tous les jours, 8h le matin, 8h le soir, 7 jours par semaine.
Oh!
88-554-6060, 88-554-6060. On est présent sur Facebook, évidemment, avec la page à mon nom ou encore celle de Inspection DMI. Et sur Internet aussi, à www.inspectiondmi.com.
Pour nos auditeurs qui nous écoutent, après l'émission, je partage toujours le podcast sur la page Facebook de La Traverse et je vais taguer aussi les pages de notre invité. Donc, une autre façon, si vous ne l'avez pas pris en note, ben, de réécouter le podcast au 969FM.ca ou sur les réseaux sociaux, sur les internets, comme on dit.
Et nous, on a la chance, comme courtier immobilier, de côtoyer énormément d'inspecteurs. Puis c'est toujours le fun de remettre à jour nos différentes connaissances avec des bons inspecteurs aussi. Il faut les choisir aussi, nos inspecteurs. Puis une des choses qui est vraiment intéressante et importante dans le milieu de l'inspection en bâtiment, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir un état de santé un peu plus complet, je pense, sur la propriété. Puis on va laisser Danny là, pouvoir nous expliquer là, les différentes utilisations technologiques que vous utilisez maintenant.
Oui, absolument. Maintenant, la technologie nous permet d'avancer de façon un peu plus poussée en inspection. Avant, c'était une inspection visuelle. On faisait le tour avec l'acheteur, puis ce qui était vu avec les yeux humains étaient les choses qui étaient notées. Maintenant, on a la chance d'utiliser des appareillages infrarouges qu'on appelle la thermographie. Et ces caméras thermiques nous permettent de voir des choses que l'œil nu, justement, ne peut pas voir. On parle de quoi? On parle des déficiences qui sont liées à l'isolation. On parle même de la structure du bâtiment qui, dans certaines conditions, là, on est en mesure de la voir avec ça. Donc, toute la charpente en arrière du mur de gypse, là, moi, je suis en mesure de la voir. Les problématiques liées aux infiltrations d'eau, qui parfois, encore une fois, sont pas visibles. On fait le tour, on voit rien, mais avec les caméras thermiques, on va la voir, on va la distinguer, cette infiltration d'eau-là, puis on va pouvoir tout de suite agir.
De l'extérieur ou de l'intérieur?
Ça peut se faire de l'intérieur comme de l'extérieur. Par contre, je vais donner certaines nuances là, à ce niveau-là, mm-hmm. dans mon exposé. Il y a aussi l'humidité. L'humidité peut être déjà présente. Mm-hmm. Elle laisse pas de signe, j'ai pas de moisissure, j'ai rien, mais elle peut être problématique. Déjà, à l'intérieur des murs, j'ai l'appareillage, on a l'appareillage, là, les inspecteurs en bâtiment, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, pour faire ça. Les surchauffes dans les circuits électriques ou les composantes électriques, en autant que le circuit soit sollicité, on est en mesure de les voir. Les planchers chauffants, donc, on est en mesure de voir s'ils sont bien fonctionnels. Les systèmes de chauffage à eau chaude, les radiateurs, etc., est-ce qu'ils fonctionnent réellement bien dans l'immeuble? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est en mesure de voir avec la thermographie. Et ça amène à un autre niveau, là, l'évaluation là, du bâtiment.
C'est pas systématique.
Non, pour utiliser la caméra thermique, normalement, et encore une fois, on se souvient que l'encadrement au niveau de la profession n'est pas présent, donc tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Mais normalement, pour utiliser les caméras thermiques, il faut être ce qu'on appelle un thermographe en investigation. Le thermographe en investigation, c'est une personne qui a une certification, donc les compétences et les connaissances pour opérer une caméra thermique. Et il y a trois niveaux qui sont possibles. Donc, le niveau 1, qui est le niveau minimum qu'une personne doit avoir pour opérer les caméras thermiques. Le niveau 2, comme moi j'ai actuellement, qui nous permet d'être un expert légal et en même temps de faire des rapports plus poussés. Et il y a le niveau 3, qui est pour ceux qui veulent travailler en recherche et développement. Le niveau 3, la formation ne se donne pas au Québec, ne se donne pas en français non plus. Donc, c'est beaucoup plus rare qu'on va voir un niveau 3. Là, c'est des gens souvent qui sont en formation, recherche et
développement. Ce ne sera pas nécessairement sur le terrain, le niveau 3.
Là. En fait, ça ne servirait à rien sur le terrain.
C'est ça. Parce qu'on va penser à la recherche et le développement.
Exactement. Donc, pour un auditeur qui regarde pour engager un inspecteur en bâtiment, mais qui désire avoir un inspection un peu plus poussée, qui veut qu'on travaille avec la caméra thermique, donc la thermographie, il faut qu'il vérifie que l'inspecteur aura la formation minimum de thermographe niveau 1. Et pour ce faire, mais il peut demander les certifications, donc les copies de certification pour avoir cette information-là. C'est très important de savoir que présentement sur le marché, il y a un grand nombre d'inspecteurs qui vont travailler avec des caméras thermiques, mais qui n'ont pas la formation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les connaissances et les compétences pour bien calibrer l'appareil, entrer les informations que l'appareil a besoin d'avoir pour déterminer ce qu'elle voit. Je donne juste un exemple. J'ai déjà contre-expertisé un dossier. L'inspecteur avait noté une infiltration d'air par la porte à moins 6,5 degrés Celsius. Je fais l'expertise. Je vérifie sur les historiques météo et la température la plus froide enregistrée cette journée-là dans la région, c'était moins 2. Alors, comment que l'inspecteur a fait pour arriver à une température de moins 6,5 degrés Celsius sur un rapport thermique? C'est parce que son appareil n'était pas bien calibré au niveau de l'émissivité. Je ne rentre pas dans les détails plus que ça, mais pour vous dire à quel point ça peut être complètement en dehors du champ, une température de 4,5 degrés plus froide enregistrée par la caméra que ce qu'il y a eu le plus froid dans la journée. Donc, il faut faire attention.
Déjà, l'inspecteur aurait dû voir sa donnée, c'est pas logique.
L'intelligence et la logique n'est malheureusement pas un prérequis actuellement pour être inspecteur.
C'est rare qu'on l'entende parler comme ça.
Il faut savoir aussi que dans l'inspection, on le voit souvent dans les différents rapports, il y a souvent plus de limitations que de conclusions. Souvent, les inspecteurs vont dire, écoutez, on vous donne un rapport, vous en êtes le responsable. Par contre, moi, tout ce qui était visible, c'est ce qui a été noté. Qu'est-ce qui était invisible, mais malheureusement, je ne pouvais pas le voir. Ça fait quand même partie des...
Oui, il faut comprendre que d'emblée, la norme de pratique d'un inspecteur en bâtiment là, est une inspection visuelle. Donc, et c'est correct comme ça. La thermographie vient repousser ces limites-là, mais il faut savoir que pour que l'inspecteur puisse utiliser la caméra, oui, on a dit qu'il faut que ce soit thermographe en investigation, mais que pour que le client qui l'engage soit protégé pour les erreurs et omissions au niveau des assurances, l'assurance de l'inspecteur vont exiger, oui, qu'il ait la formation de niveau 1, mais aussi que dans sa convention de service, il y a une information là, liée à la thermographie et que l'auditeur doit aussi comprendre que l'assurance d'emblée, de base, d'un inspecteur ne couvre pas la caméra thermique. Donc, il faut que l'assurance soit prise à part.
OK.
Un avenant complémentaire.
Donc, pour être bien protégé, c'est toutes des choses que L'acquéreur doit vérifier.
Puis est-ce que vous utilisez d'autres technologies pour des inspections de bâtiments?
Oui, on utilise d'autres technologies comme des humidimètres. Des humidimètres, ça va nous permettre de relever les taux d'humidité dans les matériaux. Donc,
les matériaux?
Oui, dans les matériaux.
Le humidimètre, là, c'est quoi? C'est
ouais. Jamais les gens, des fois, mêlent avec hygromètre. Hygromètre est un appareil de prise d'humidité dans l'air. Et dans l'humidimètre, l'air, ouais. C'est sur les matériaux. Ah. Donc, c'est un appareil qui permet d'aller chercher l'humidité dans le matériel. Ça veut dire quoi? Ben, exemple, on suspecte une fondation d'être peut-être trop humide, ben on va être capable de relever le taux d'humidité du béton. Mmh. Autour d'une toilette, on va vérifier les taux d'humidité à travers la céramique. Donc, peut-être que la toilette coule, mmh. mais qu'on ne le sait pas encore. Mais il y a des dommages en dessous. Des douches en céramique, est-ce qu'on a une problématique d'infiltration d'eau? On va pouvoir le voir avec ces appareillages-là. Donc, on va encore plus loin qu'une inspection visuelle
puis
ordinaire.
Pour un de mes clients qui a acheté un 6 logements, là, ça l'a fait toute une différence sur son acquisition. C'était un drain qui avait à changer pour la moitié de l'immeuble complètement, qui était des frais de 25 000 $ fait que ça l'a bien fait de le voir directement avec un inspecteur appareillé pour se faire. Puis par la suite, juste pour finir, parce qu'il nous reste très peu de temps.
Oui, ça va vite.
Est-ce que tu veux nous parler de quelques cas vécus? Que tu as eu ou tu sais, les grands cas classiques que tu as eu?
Oui, j'ai un cas assez intéressant. C'est une personne qui a acheté un immeuble pour faire un flip. On entend parler de ça, c'est à la mode. Et la personne a remis l'immeuble en vente avec un courtier. Et le courtier d'afficher l'immeuble comme étant un clé en main. Et plusieurs offres là, en même temps, qu'on appelle des offres multiples là, pour cet immeuble-là qui avait été mis en vente. Mm-hmm. Moi, je suis engagé par l'acquéreur qui a eu la chance d'être celui qui a fait l'offre la plus intéressante, qui est acceptée. On va sur place et on se rend compte d'une multitude de malfaçons sur l'immeuble. Donc, rénové, mais par une personne qui n'avait pas les compétences ou les connaissances pour le faire. En exemple, il y a de la réglementation hein, pour chacun des corps de métier, plomberie, électricité, etc. Mm-hmm. Et quand on rénove un immeuble, ben, il faut qu'on se conforme à la réglementation en vigueur dans la ville ou selon les normes du bâtiment. Et dans ce cas-ci, la personne, toutes les fenêtres de chambre étaient non conformes en partant. Donc, toutes les fenêtres de chambre devaient être remplacées à nouveau. L'ouverture était inadéquate. Il y avait une descente de cave qui avait été faite, mais l'eau entrait, le gel avait endommagé les surfaces de plancher, on avait de la moisissure, on avait un système d'échangeur d'air qui était branché à l'envers, on avait des clapets anti-retour qui n'étaient pas conformes, on avait tellement de choses de malfaçon que l'acheteur a décidé même de se retirer parce qu'il y avait trop de choses.
Okay.
Donc, ça vous donne une idée là, que des fois, là, ce qu'on pense et ce qui est réel, une fois l'inspection réalisée, ben, c'est pas toujours la même chose.
Wow! C'est déjà la fin, malheureusement. Ça passe vraiment vite. C'est vraiment intéressant. On aurait pu, en effet, en parler. On va te réinviter, assurément.
Ça me fera plaisir.
Pour faire une autre facette, éventuellement. C'est très intéressant.
C'est important aussi de faire affaire avec des professionnels. Puis c'est en discutant des fois avec des gens qui sont dans le milieu qu'on se rend compte que c'est vraiment important là, de s'associer avec des gens performants.
Tout à fait. Donc, merci, Dany, d'avoir été là. On va partager tes informations sur la page Facebook, comme je le disais tantôt. La semaine prochaine, Jean-François, on annonce-tu déjà quelqu'un ou presque pas encore? Ou...
Ben presque pas encore.
C'est correct.
Presque
c'est...
pas encore.
On met la table tranquillement, pas vite.
Exact.
C'est correct.
J'ai un invité de marque que je suis en attente de sa réponse. Si le tout fonctionne, on devrait parler de multilogement, investissement.
Oh.
Ça va toucher quand même une grande audience. Puis c'est super intéressant. Puis c'est une des personnes, je pense, une sommité dans le milieu actuellement là, par rapport aux investissements immobiliers.
Parfait. Bon, ben restez à l'écoute. Revenez à l'écoute la semaine prochaine pour entendre ça. Pour ma part, je serai de retour demain matin pour la dernière de la semaine. Et je laisse immédiatement le studio à mes collègues Nathalie Jean et Michel Tédalère pour « Dis-moi tes peurs ». Alors, je vous souhaite une excellente journée, chers auditeurs. Au revoir.
96.9, l'alternative radiophonique.
Taxi 4000, le service de taxi de qualité supérieure à Lévis vous présente son application.
C'est vrai qu'ils en donnent toujours un petit peu plus.
Absolument. Et leur nouvelle application en comprend pas mal de petits plus.
Ah ouais?
Ben oui, vous pouvez voir quel chauffeur s'en vient, le type de voiture qu'il conduit, où est-il rendu,
et
ça va sonner sur votre téléphone lorsqu'il sera rendu sur place. Vous pouvez payer avec ça en plus. Imaginez-vous donc que vous avez un 15% de rabais lorsque vous utilisez l'application. Pour la télécharger, consultez l'App Store ou le Google Play Store.
Recherchez Taxi Coop et sélectionnez Taxi 4000.
Taxi 4000, votre service de taxi de qualité supérieure à Lévis.
C'est le temps des pneus!
Oui, oui, Tigui!
Ça va être beau! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG!
Oui, on a compris, ça va être beau, Tigui, merci. Anyway, on le sait qu'il faut que t'ailles chez Auto Prestige DG pour ça. Si tu vas ailleurs, tu vas payer plus cher. On a vérifié, ils ont le meilleur prix pour le changement de pneus. Jusqu'à 50% moins cher qu'ailleurs. Fait qu'embarque dans ton char, pis away chez Auto Prestige DG. 6006 Boulevard Sainte-Anne à Lange-Gardien. C'est là que ça se passe pour les pneus. Ça fini là.
Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 418-529-3868. Technique, grand formateur de conducteurs.
www.technique.ca.
La niche Luna, c'est Henri de Lévis pour tous vos chiens et chats.
Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal.
Des conseils éducatifs personnalisés,
de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure
et des experts passionnés.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-griffe. Profitez également du service de livraison à domicile.
La niche Luna,
88-700-0600.
Pour plus d'informations, www.lanichaluna.com.
Chien, chat.
Vous construisez des maisons? Vous êtes autoconstructeur?